Chapitre 2 Avenue des Maltaires 1 Ils émergèrent sous une arcade à demi effondrée, creusée à flanc de colline, à côté d'une baraque en préfabriqué, sorte de reproduction à plus petite échelle de celle de la gare expérimentale de l'Arc 16. Le toit de cette petite bâtisse était piqueté de rouille sur toute sa surface. Des eaux éparpillées s'entassaient devant, en un cercle grossier. Les rochers alentour étaient noircis et ébréchés par endroits. Un bloc de la taille de la maison reine Anne, où étaient retenus les briseurs, était fendu en deux, révélant un cœur pailleté de minéraux étincelants. L'air était froid. Et on entendait la plainte incessante du vent, même si les rochers en arrêtaient le plus gros. Roland et Susanna tournèrent le visage vers le ciel d'un bleu vif, avec une indicible gratitude.
« Il y a eu un combat ici, non ? »
demanda-t-elle. « Oui, c'est ce que je dirais. Une grosse bataille, il y a bien long. »
Il avait l'air complètement éreinté. Un panneau retourné gisait au sol, devant la porte entrouverte de la baraque. Susanna insista pour être déposée à terre, afin de pouvoir le ramasser et le lire. Roland s'exécuta et s'assit le dos appuyé à un rocher, scrutant le château Discordia qui se trouvait maintenant derrière eux. Deux tours se dressaient sur fond de ciel bleu, une intacte et l'autre tronquée assez près du sommet, à l'œil. Il s'appliqua à reprendre son souffle. Il sentait sous lui le sol froid, et il sut d'emblée que leur randonnée à travers les Maltaires serait difficile. Pendant ce temps, Susanna avait retourné le panneau. Tout en le tenant d'une main, de l'autre, elle époustait la croûte de crasse accumulée au cours des ans. Les mots qu'elle découvrit étaient écrits en français, et elle frissonna violemment en les déchiffrant. Ce poste de contrôle est fermé, définitivement. En dessous, en rouge, semblait darder sur elle son regard furieux, était dessiné l'œil du roi. 2. Ils ne trouvèrent rien d'autre dans la pièce principale de la baraque qu'un fouillis de matériel réduit en miettes et encore des squelettes, dont pas un seul complet. Dans la réserve attenante, cependant, elle dénicha quelques délicieuses surprises. Des étagères entières de boîtes de conserve, plus qu'il n'en pourrait transporter, ainsi que du méta. Elle se dit que Roland ne ferait plus son bougon sarcastique quand elle s'équiperait de combustible, et elle avait raison. Elle passa la tête par l'embrasure de la porte de la réserve par acquit de conscience, n'espérant pas vraiment trouver quoi que ce fût à côté, à part peut-être quelques squelettes supplémentaires. Et il y en avait effectivement un. Le gros lot, c'était le véhicule dans lequel reposait cet amas d'ossements difformes. Un dock-cart, rappelant un peu celui qu'elle avait en haut du château, au cours de sa palabre avec Mia. Celui-ci était à la fois plus petit et en bien meilleur état. Les roues n'étaient pas en bois, mais en métal recouvert d'une fine peau synthétique. Des poignées saillaient sur les côtés. Et c'est alors qu'elle comprit qu'il ne s'agissait pas du tout d'un dock-cart, mais d'une sorte de pousse-pousse.
« Pépa-toi à dégager de là, le macabé !»
C'était là une pensée typiquement à la Detta Walker. Acerbe et grossière, mais elle lui arracha un petit rire malgré elle.
« Qu'as-tu trouvé d'amusant ?»
lança Roland d'une voix forte depuis l'autre pièce.
« Tu verras, »
dit-elle en s'évertuant d'écarter tout accent de détat, au moins ce à quoi elle ne parvint pas complètement.
« Tu verras bien assez tôt, je peux te dire. »
3. Il y avait un petit moteur à l'arrière du pousse-pousse, mais ils comprirent tous les deux au premier coup d'œil qu'il n'avait plus servi depuis une éternité. Dans la réserve, Roland trouva quelques outils simples, notamment une clé anglaise réglable.
Elle était coincée, la mâchoire ouverte, mais quelques gouttes d'huile, tirées d'une boîte rouge et blanche 3 en 1, tout à fait familière à Susanna, la remit en état en un clin d'œil. Roland l'utilisa pour décrocher le moteur de son axe, puis il le fit basculer à terre. Tandis qu'il bricolait et que Susanna jouait ce que Pop Mose aurait appelé l'inspecteur des travaux finis, Otte restait assis à une quarantaine de pas de l'arcade par laquelle ils avaient surgi, montant ostensiblement la garde pour intercepter la chose qui les avait poursuivis dans le noir.
« 15 livres à peine !» commenta Roland en s'essuyant les mains sur son jean et en contemplant le moteur désossé. « Mais j'imagine que, le moment venu, je serai heureux de m'en être débarrassé. »
« En reparquant ?»«
Dès qu'on aura stocké autant de boîtes de conserve que j'estime pouvoir emporter, » dit-il en poussant un profond soupir. Il était pâle et mal rasé. Des cernes noires se dessinaient sous ses yeux, de nouvelles rides lui striaient les joues, des coins de la bouche au menton. Il était maigre comme un coup de fouet.
« Roland, tu ne peux pas faire ça, pas déjà. Tu es épuisé. »
D'un geste vague, il désigna Otte, patiemment assis devant les ténèbres béantes.
« Tu veux te retrouver aussi près du tunnel quand il fera noir ? » ?»«
On peut faire un feu, cette chose a peut-être des amis. »
Des amis qui n'ont pas peur du feu. Tant qu'on était dans ce conduit, la chose n'aurait pas voulu nous partager, parce qu'elle n'y était pas forcée. Mais une fois la nuit tombée, elle s'en moquera, surtout si elle veut se venger.
Une créature pareille ne réfléchit pas, c'est impossible.
C'était plus facile à croire à présent qu'ils étaient dehors. Mais elle savait qu'elle changerait peut-être d'avis une fois que leurs ombres s'allongeraient et se mêleraient.
« Je ne pense pas qu'on puisse se permettre de courir le risque. »
À contre-cœur, elle dut bien admettre qu'il avait raison. 4. Heureusement pour eux, la première portion de sentier étroit s'engageant dans les Maltaires était assez plate, et lorsqu'ils arrivèrent bel et bien au pied d'une côte, Roland ne vit pas d'objection à ce que Susanna descende à terre et sautille hardiment derrière l'engin qu'elle avait baptisé le taxi de luxe de Haut-Fat, jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet de la crête. Petit à petit, le château Discordia s'enfonça derrière eux. Roland poursuivit son chemin quand les rochers leur masquèrent la première tour, mais lorsque la deuxième disparut, il désigna du doigt une tonnelle en pierre sur le bord du chemin et dit
« C'est ici que nous établirons le campement pour cette nuit, sauf si tu as une objection. »
Elle n'en avait pas. Ils avaient réuni assez d'os et de lambeaux d'uniforme kaki pour allumer un feu, mais Susanna savait que leur réserve de combustible était maigre. Les morceaux de tissu brûleraient aussi vite que du papier journal, et les os disparaîtraient avant que les aiguilles de la montre chic de Roland, qu'il avait exhibée avec une émotion proche de la vénération, ne se rejoignent pour minuit. Et la nuit suivante, il n'y aurait très vraisemblablement pas de feu, et de la nourriture froide mangée à même les boîtes de conserve. Elle avait bien conscience de ce que les choses auraient pu être bien pires. Dans la journée, il faisait autour de 15 degrés, plus ou moins, et au moins ils avaient de quoi manger, mais elle aurait donné très cher pour un pull, encore plus pour une paire de gants.
« On trouvera sans doute des trucs à brûler sur le chemin, » dit-elle avec espoir, quand le feu eut démarré.
En brûlant, les eaux dégageaient une odeur répugnante et ils veillèrent à ne pas s'asseoir face au vent.
Des herbes, des buissons, d'autres eaux, peut-être même du bois mort.
Je ne pense pas, corrigea Roland. Pas de ce côté-ci du château du roi cramoisi. Pas même de l'herbe du diable qui pourtant pousse dans tous les fichus recoins de l'entre-deux-monde.
Tu n'en sais rien, tu n'en es pas certain. Elle ne supportait pas la perspective de jours et de jours entiers d'un froid monotone contre lequel il serait vêtu d'une tenue plus appropriée à une balade printanière dans Central Park.
Je crois qu'il a assassiné cette terre lorsqu'il a plongé tonne foudre dans les ténèbres.
songea Roland à voix haute.
Au début, ça n'a pas dû être bien méchant, mais maintenant tout est stérile. Mais on peut s'estimer heureux.
Il se pencha vers elle pour toucher un bouton qui avait éclos à côté de sa lèvre inférieure charnue.
Il y a 100 ans, il serait devenu noir, ça se serait étendu et ça t'aurait rongé la peau jusqu'à l'os. Ensuite, ça aurait attaqué le cerveau, et tu serais devenue folle avant de mourir.
D'un cancer? De l'iridiation? Roland haussa les épaules comme pour signifier que peu importait.
Quelque part au-delà du château du roi cramoisi, on tombera peut-être à nouveau sur des collines verdoyantes, voire des forêts. Mais l'herbe sera sans doute enfouie sous la neige quand on arrivera, vu la saison. Je le sens dans l'air, je le vois à cette façon qu'a le jour de s'obscurcir.
Elle grogna, cherchant désespérément à produire un effet comique, mais tout ce qui vint, c'est un mélange de peur et de lassitude qui l'effraya elle-même. Othé dressa les oreilles et les regarda tous les deux.
Pourquoi tu n'essaies pas plutôt de me remonter un peu le moral, Roland?
Il faut que tu saches la vérité. On peut continuer comme on le fait là pendant un moment, Susanna, mais ça ne sera pas une partie de plaisir. On a assez de nourriture dans ce chariot-là pour tenir un mois ou plus si on fait durer les réserves, et on y veillera. Quand on arrivera de nouveau en vue d'une terre vivante, on trouvera des animaux, même s'il y a bien de la neige. Et c'est ça que je cherche. Non pas qu'on aura faim, même si la chair fraîche sera la bienvenue, mais parce qu'on aura besoin des peaux. J'espère qu'on ne se retrouvera pas dans une situation dramatique, mais...
Mais tu as peur qu'on en arrive là?
Oui, dit-il, j'en ai peur. Quand il dure, il n'y a presque rien de plus décourageant que le froid constant. Pas assez violent pour tuer, peut-être, mais toujours tapis là, à voler ton énergie et tes réserves de graisse petit à petit. J'ai bien peur qu'on se prépare à un périple très éprouvant. Tu verras.